Bonjour, ici Annie Quentin. Aujourd'hui, notre invité, Maxime Coulombe.
Bienvenue à Facteurs humains, le balado. Pensé et réalisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, cette chaîne vous fait entrer dans les coulisses de la recherche et de la création pour y rencontrer des passionnés de la découverte. Voyez tout l'impact des lettres et des sciences humaines sur la société et le savoir.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à notre co-animatrice, Mélanie Boutin.
Bonjour.
Bonjour, Maxime Coulombe. Bienvenue à Facteurs humains.
Bonjour.
Maxime, vous êtes professeur d'histoire de l'art au département de sciences historiques de l'Université Laval, spécialiste de l'art actuel. Vous êtes aussi l'auteur, entre autres, du livre « Le plaisir des images », « Petite philosophie du zombie » ou encore « Le monde sans fin des jeux vidéo ». Nous aborderons ces éléments-là un petit peu plus tard. Comme première question, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a amené à l'histoire de l'art, à choisir cette discipline? Comment devient-on historien d'art?
Bien, on ne peut jamais répondre que pour sa propre histoire. Je ne sais pas si la mienne est particulière ou pas, mais je suis arrivé par des chemins détournés en histoire de l'art. Je viens pas d'une famille où l'histoire de l'art était naturellement valorisée. Là. J'ai aucun souvenir d'être allé au musée, par exemple, enfant avec mes parents. Je dirais que les principales sources de plaisir esthétique dans ma famille, c'était plutôt par la musique que par les images. Mes parents étaient des amateurs de musique classique, donc ça, j'ai souvenir d'avoir écouté de la musique classique quand j'étais enfant, entre autres dans la voiture, mais j'étais un petit gars de Québec, alors le sport était probablement le centre de mon attention pendant de nombreuses années. Puis je dirais que ça a l'air absolument anodin, mais puisque l'art est entré assez tard dans mon parcours, on en reparlera, mon rapport a souvent été à l'art un rapport d'incompréhension. Cette incompréhension-là est un peu presque une posture intellectuelle désormais, c'est-à-dire que les sujets qui m'intéressent, les champs qui m'intéressent, ce sont d'abord et avant tout des champs qui m'intéressent parce que je ne les comprends pas. Je ne comprends pas exactement pourquoi on décide d'aller au cinéma, par exemple, pour avoir peur. Ça m'apparaît, lorsqu'on le formule clairement, ça m'apparaît un peu contradictoire. Mm-hmm. Ou pourquoi est-ce qu'on peut passer 12 heures par jour à être assis devant une image et qu'on est complètement absorbé, comme dans un jeu vidéo, par exemple. Et donc, il y a plusieurs des objets qui sont les miens qui sont des objets d'incompréhension. Ce qui a pour effet de créer chez moi des champs de recherche qui sont très diversifiés. Parce qu'ils sont à chaque fois le fruit de cette curiosité-là puis de cette incompréhension-là. Quand j'ai l'impression d'avoir répondu à la question que je me posais au départ, je change de sujet ou je vais travailler sur autre chose, mm-hmm. ou j'ouvre des nouveaux chantiers.
C'est très intéressant, Maxime, ce que vous dites au sujet de l'incompréhension que vous a amené vers l'histoire de l'art. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments, justement, qui vous a amené vers cette discipline? Puisque, comme vous l'avez mentionné tantôt, vous n'avez pas grandi dans les musées et l'art est arrivé quand même tardivement dans votre parcours, dans votre vie.
Pour ce qui est de l'histoire de l'art en tant que telle, je dirais qu'il y a peut-être trois raisons qui m'ont incité à aller dans la discipline de l'histoire de l'art. Il y avait sans doute l'incompréhension dont on vient de parler, là, dont le pendant positif est sans doute la curiosité. Il y avait un intérêt pour la théorie et la philosophie. Et puis, je suis allé par affection, en fait. Par incompréhension, là, on en a parlé. Pour ce qui est de la théorie, ben, j'étais en histoire à l'origine. Hein, j'ai fait l'Université Laval, c'est mon alma mater. Là, j'ai fait mes études en histoire au département des sciences historiques à l'Université Laval. Puis ben, j'ai compris, je pense, assez rapidement que les archives n'étaient pas nécessairement pour moi. Puis la manière de travailler des historiens me correspondait peut-être pas parfaitement. Mais que j'adorais la théorie et que j'adorais les enjeux philosophiques. Je trouvais important que mes réflexions et puis mes recherches aient un écho ou me permettent de comprendre non seulement les objets sur lesquels je travaille, mais aussi le monde qui m'entoure, que ça puisse avoir un impact dans ma propre vie. Puis je dirais que la psychanalyse, par exemple, qui est une de mes références principales, a cette caractéristique-là de manière très directe. La psychanalyse est utile pour comprendre l'art et l'histoire de l'art. Elle est aussi, évidemment, très utile pour comprendre les relations qu'on entretient avec les autres
pour
et se comprendre soi-même.
C'est ça, et se comprendre.
C'est tout à fait oui. vrai. Donc ça m'a, dans une certaine mesure, fait réaliser que j'avais besoin, dans une certaine mesure, de références théoriques dans mon parcours, d'interrogations de nature un peu philosophique. Et l'histoire de l'art est sans doute une des disciplines les plus proches de l'histoire qui se préoccupe le plus de ces enjeux philosophiques ou de ces enjeux théoriques-là. Puis enfin, quand je parlais tantôt de la question de l'affection, c'est que j'ai rencontré aussi en histoire de l'art à l'Université Laval une personne dont l'intelligence m'a sidéré d'abord, puis qui humainement me touchait beaucoup, en fait, qui est devenue ma directrice de recherche à la maîtrise et qui va aussi jouer un rôle dans mon parcours au doctorat. C'est Marie Carani, en fait, qui a été professeure ici à l'Université Laval. Et c'était une grande chercheure, c'était une chercheure remarquable. Et elle était capable de tout penser, en fait. C'est pour moi, là, qui est un petit gars de Québec, c'était nouveau de réaliser qu'un intellectuel, c'était quelqu'un qui était capable de tout réfléchir, qui allait s'intéresser non seulement à l'art, qui était son champ de recherche principal, mais aussi au design des objets qui l'entouraient, aux relations avec les gens qui l'entouraient. Tout était interprétable, tout était sujet à réflexion et dans une certaine mesure, son intelligence redoutable lui donnait des perspectives, je dirais, ou lui donnait des clés assez extraordinaires pour comprendre une diversité de phénomènes. Là, je me suis rendu compte qu'elle incarnait aussi une certaine posture, une certaine manière d'appréhender les phénomènes, une certaine manière d'appréhender notre rapport au monde. Puis on est resté très proche, en fait, jusqu'à son décès, là, il y a pas très longtemps. Puis c'est clair que je serais pas là si c'était pas d'elle ou si c'était pas de la relation puis de la manière dont elle m'a permis de comprendre comment on pouvait être un intellectuel ou comment on pouvait faire de la pensée une vie, autrement dit. L'autre référence, c'est mon autre directeur de thèse, qui était quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration aussi. C'est David Le Breton, qui est un sociologue. Hein. Quand j'ai fait mes études doctorales, j'ai décidé de partir...
Car vous êtes sociologue aussi, Maxime.
Ouais, exact. Oui. J'ai un doctorat. J'ai fait une thèse, en fait, qui a été validée dans les deux disciplines, c'est-à-dire et en histoire de l'art et en sociologie. Puis ben, David m'a appris que faut évidemment pas juger les phénomènes. L'histoire de l'art parfois a tendance à juger ou à considérer les choses comme belles ou que sache à poser un jugement esthétique. En sociologie, on ne pose pas de jugement. On ne pose jamais de jugement. On appréhende les phénomènes tels qu'ils sont. Puis évidemment, le sujet n'est pas responsable. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui motive ses choix, quelles sont les forces qui se sont emparées de lui, en fait, et puis qui sont en cause dans les comportements qui sont les siens. Alors ça aussi, ça va m'accompagner dans ma réflexion sur les images, par exemple. C'est comme ça, tranquillement, par amitié, par affection, par intérêt intellectuel, que progressivement, mon champ, je ne sais pas s'il y a un champ, mais en tout cas, que le type de problème que j'aime aborder s'est cristallisé.
Justement, votre parcours, Maxime, montre bien d'une part que la science, que l'intérêt scientifique, le fait de devenir chercheur est très lié à soi, aux questions que l'on porte, et lié aussi à ces rencontres que l'on fait tout au long de notre parcours et qui sont parfois très déterminantes parce qu'elles nous apportent. Et ça nous permet aussi de mieux comprendre peut-être votre démarche qui, je vais la résumer rapidement et sans doute bien injustement, qui part non pas de l'érudition de la connaissance encyclopédique développée sur un objet d'art, mais plutôt qui cherche à comprendre l'émotion, l'expérience esthétique que génère cet objet ou qui a généré cet objet d'art. Comment on fait pour étudier l'émotion? Comment on fait pour en rendre compte?
C'est difficile. C'est une belle question, mais c'est une question difficile. Qui n'est pas évidente. L'émotion comme telle, on n'a jamais que la nôtre pour aborder un sujet comme celui-là. Je pense qu'il faut réaliser que cette émotion-là, elle a une importance parce qu'elle nous guide, elle nous dit un certain nombre de choses. Si on ne peut pas toujours la généraliser d'un coup, on ne peut pas faire de notre propre sentiment le sentiment partagé par tous. Parfois, ça nous met sur certaines pistes, ça répond à certaines questions. Ma démarche, elle est beaucoup dans ma manière d'approcher les objets. Elle est proche dans ce sens-là de la sociologie parce que j'hésite pas à demander à d'autres, en fait, qu'est-ce qu'ils voient. Quand j'ai travaillé sur les jeux vidéo, évidemment que les étudiants en étaient d'ailleurs très surpris, mais j'ai fait travailler des étudiants en histoire de l'art en leur disant « Mais là, vous allez me tenir un journal. Vous allez jouer, puis vous allez me tenir un journal, vous allez me dire ce qui se passe. » Puis là, j'ai choisi des gens qui connaissaient rien aux jeux vidéo, des gens qui avaient aucune connaissance, pour qui même l'interface était difficile, puis des gens qui étaient déjà des joueurs, etc. Donc, j'ai beaucoup fondé mon expérience comme ça. Puis je suis aussi, j'ai aussi sollicité des joueurs que je rencontrais quand je jouais moi-même. Tu sais, il y avait une observation participante, donc j'ai plongé dans ces univers-là. Donc j'essaie de travailler, quand je travaille sur l'émotion, j'essaie de trouver des manières de généraliser mon propos. Quand j'ai travaillé sur les jeux vidéo, j'ai utilisé des gens qui m'ont aidé. J'ai utilisé les informations que ces gens-là m'ont données. Quand j'ai travaillé sur l'expérience des images, plus récemment, hein, vous faisiez référence à l'ouvrage que j'ai publié l'an passé, là, Le plaisir des images au PUF. Dans ce cas-là, je me suis tourné vers des disciplines qui nous permettent d'échapper à un jugement qui serait purement subjectif. Je me suis tourné vers les neurosciences puis les sciences cognitives. Fait que ça a été très, très long à écrire parce que je ne suis pas un spécialiste des neurosciences ou des sciences cognitives. Donc, il a fallu plonger. Il a fallu encore une fois essayer de se faire une petite tête sur ces questions-là. Il a fallu employer ces références-là pour comprendre, ben, par des expériences en sciences cognitives pratiques, comment on a réussi à déterminer certains des gestes qui étaient posés, comment fonctionnait la mémoire, par exemple, ou comment fonctionnait la perception des images. Puis en neurosciences, tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on perçoit, puis comment se font les liens, par exemple, entre perception, émotion et mémoire, etc. Donc, j'ai essayé de trouver différentes manières de comprendre ces phénomènes-là. Mais là, vous avez raison aussi, c'est que je ne suis pas parti, si vous voulez, d'une perspective qui serait fondée sur l'érudition. C'est mon passé de sociologue, sans doute, mais j'ai toujours... J'ai l'impression que l'histoire de l'art doit s'ouvrir, en fait, à des publics qui n'ont pas nécessairement une érudition, puis j'ai pas l'impression que le musée doit avoir comme objectif de systématiquement valoriser l'érudition des spectateurs, mais de valoriser plutôt leur contact aux œuvres. Donc, dans mon ouvrage sur le plaisir des images, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question-là. J'ai parfois l'impression que les musées ont intégré le discours de l'histoire de l'art comme étant la perspective traditionnelle pour observer les images, si bien qu'on a pratiquement oublié de se demander ce qu'on ressentait face aux images, puis comment les images sont capables de faire lever nos souvenirs, puis pourquoi est-ce que cette image-là est capable de me replonger dans mes propres souvenirs, dans ma propre expérience personnelle, dans ma propre mémoire, et pas nécessairement dans des motifs iconographiques qui appartiennent à la tradition. Certes, les images sont faites de ça, mais ce n'est pas toujours ce qui se passe en nous. Donc, d'essayer de retourner...
C'est ça, ce n'est pas toujours le paradigme de l'institution, mais il y a aussi celui de l'affect, là, de
oui, ce puis c'est aussi cet affect-là qui est à l'origine de la passion des historiens d'art elles-mêmes. Tu sais, la plupart des historiens d'art vont le dire en note en bas de page ou en préface, etc. Pourquoi est-ce que c'est tel et tel objet qui les intéressait? Mais dans une certaine mesure, ils font comme si cette émotion-là les avait pas portés aussi dans l'analyse elle-même. Donc, il y a chez moi cette volonté-là d'essayer jamais d'exclure l'érudition, bien sûr, je suis tout de même un historien d'art, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en nous, en termes d'émotion, en termes de mémoire, en termes de nos propres références, en fait, lorsqu'on entre en contact avec les images.
Cette originalité-là de votre approche, on la retrouve aussi dans vos objets d'études, Maxime. On évoquait tantôt les zombies, il y a aussi l'art performance, body art, les jeux vidéo, vous en parliez, là, vous venez d'en parler. Ce sont des objets qui peuvent étonner. On est loin des murs des musées, justement. Comment sont reçus ces objets-là? Comment est reçu ce choix d'objets? J'imagine qu'il y a des difficultés à penser la marge ou ce qui est considéré comme la marge. Est-ce qu'il y a des défis à ça?
Il y a sans doute une distance, en fait, que je tends à essayer de combler entre mon enseignement et ma recherche. J'enseigne des cours en histoire de l'art qui sont des cours de contenu, c'est-à-dire j'enseigne l'art depuis 1968, j'enseigne la photographie, etc. Puis parallèlement à ça, j'ai des objets de recherche qui sont singuliers. J'enseigne assez peu sur... Je commence à le faire, mais j'enseigne assez peu, par exemple, sur le cinéma d'horreur. Je ne suis pas un professeur en cinéma directement, etc. Mais je commence à trouver des manières d'intégrer ces recherches-là qui sont pour moi des... C'est un peu bizarre à dire, mais qui sont pour moi des recherches, j'allais dire, presque personnelles. Ça m'intéresse, puis je comprends pas. Alors, je vais mettre l'énergie puis les ressources nécessaires pour tenter de le comprendre. J'ai la chance d'être professeur à l'université, donc on me donne du temps pour être capable de mener à bien ces recherches-là, mais elles sont effectivement un peu en marge de mon enseignement traditionnel. Puis ben, en ce qui concerne la publication de ces textes-là, il n'y a pas véritablement de problème puisque j'ai un bon éditeur qui est assez content d'avoir des bouquins sur des objets comme ceux-là. Tu sais, les textes sur le cinéma d'apocalypse et le cinéma de zombies, c'est des livres qui ont un écho assez large. En fait, le texte a trouvé un auditoire au Japon, en Italie, etc. Tu sais, c'est des recherches...
Il a été édité, réédité.
Oui, il a été traduit, c'est ça. C'est un ouvrage qui est assez bien fonctionné. Puis, encore une fois, tu sais, ça correspond peut-être à certaines des exigences que je me suis moi-même fixées. Mes articles scientifiques, ce sont presque tous des morceaux de livres. J'essaie d'abord de penser ma recherche en termes de livres, à la fois pour la longueur, je dirais, pour l'ambition de ce que je tente de réfléchir. Effectivement, c'est des objets qui sont très diversifiés, puis en même temps, qui ont des points communs qui reviennent à chaque fois. Il s'agit toujours d'images, pas toujours d'œuvres d'art. J'ai une préférence parfois à parler d'images, parce que dans œuvres d'art, il y a parfois un petit jugement de valeur. Hein. On présume qu'il s'agit d'œuvres qu'on pourrait exposer dans les musées, de ce qu'on appelle en anglais le « high art ». Ben, j'aime l'art populaire, le cinéma étant un art plus populaire, les séries télé, etc. C'est par ailleurs le principal mode de relation aux images que notre culture entretient. Quand on accroche quelqu'un dans la rue puis qu'on lui dit c'est quoi les dernières images que tu as vues ou quelles sont les œuvres d'art que tu fréquentes le plus, lui-même, il ne pensera pas comme ça. Mais c'est évidemment des séries télé, c'est évidemment des films, c'est évidemment à la limite des bandes dessinées ou des jeux vidéo. C'est ce type d'image-là. Et donc, si c'est ce type d'image-là qui sont à la mode, entre guillemets, ben, c'est bien parce que ce sont des images qui résonnent en nous. Le fait qu'un phénomène soit à la mode, ce n'est pas une manière de le dénigrer, c'est au contraire une manière de le considérer comme au diapason d'une époque. Un phénomène qui est capable de rejoindre les désirs, les aspirations, les manques peut-être des gens qui s'y investissent. Et donc, il y a dans un phénomène à la mode quelque chose comme un révélateur de notre époque. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à ces phénomènes-là, parce que j'y vois... le cinéma de zombies ou le cinéma d'apocalypse ou les jeux vidéo, des révélateurs de notre époque, c'est-à-dire des phénomènes qui nous permettent de comprendre le monde par le biais des images. Pour moi, travailler sur les images, travailler sur les œuvres d'art, c'est en faire des leviers pour comprendre notre époque.
Vous anticipez ma prochaine question, qui est pourquoi... Je vous demandais plutôt pourquoi l'histoire de l'art pour vous, votre choix de parcours, mais pourquoi l'histoire de l'art maintenant pour nous, pour notre société, pour le monde d'aujourd'hui? On comprend déjà parce que vous venez de dire que cela nous révèle à nous-mêmes. Est-ce que c'est la fonction de l'histoire de l'art?
Il y a assurément cette partie-là qui est vraie, puis de plus en plus en Europe, ailleurs, même ici à l'Université Laval, on est de plus en plus en train de parler de ça, des études sur l'image. On fait de l'histoire de l'art une manière de réfléchir sur les images, sur l'histoire des images, sur l'histoire des relations qu'on a entretenues aux images. Parce qu'on est dans une forme d'analphabétisme des images, comme disait Benjamin. C'est-à-dire que les images produisent un effet sur nous, mais on n'est pas toujours conscient de cet effet-là, puis on n'est pas toujours bien équipé pour s'en prémunir. Quand des images savent capter notre attention, semblent nous tirer sur le coin de notre chemise, pensons au rapport qu'on entretient à notre téléphone, on a désormais une attention qui est fracturée par les outils technologiques qui nous entourent. On est très mal équipé pour comprendre ça, puis pour comprendre comment l'attention fonctionne, puis pour comprendre comment on en est arrivé à être dans ce qu'on appelle désormais l'économie de l'attention, qui est une économie largement visuelle. Donc, comprendre ces phénomènes-là, pour moi, c'est faire de l'histoire de l'art aujourd'hui. Mais cela dit, j'ai aussi l'impression que les artistes ont des choses à nous dire, ont des choses à nous apprendre. Dans les projets de recherche qui m'occupent aujourd'hui, là, juste pour vous parler d'une petite chose, je travaille beaucoup sur la question de l'attention. Je suis en train de finir un bouquin, là, on en reparlera peut-être, sur un nouveau livre sur les jeux vidéo où la question de l'attention est centrale. Donc, je suis très inquiet des problèmes d'attention qui se développent aujourd'hui. Je suis très inquiet de l'impact des nouvelles technologies sur le fractionnement de l'attention aujourd'hui. Mais je m'intéresse aussi à des artistes qui proposent des manières de résister à cette économie de l'attention-là. Je travaille ces temps-ci sur, vous le savez bien puisque vous avez lu ma demande, je travaille ces temps-ci sur des artistes qui, pour qui la méditation joue un rôle central dans leur pratique. Ça paraît étrange, mais il y en a énormément. Et ce sont des artistes qui ont fait de l'attention et de la méditation presque une expérience esthétique. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? C'est peut-être quelqu'un qui est particulièrement sensible à ce qui l'entoure, quelqu'un qui est attentif au monde qui l'entoure, puis qui aide le spectateur à devenir de plus en plus attentif au présent, de plus en plus attentif à l'environnement qui l'entoure, à ce qu'il ressent, etc. Mais ces artistes-là utilisent la méditation comme une manière pour eux d'être plus présents au monde, mais aussi pour inciter le spectateur à être davantage présent. Donc, l'art est certes un sismographe, mais il a peut-être aussi cette capacité à nous donner des percées, si vous voulez, ou des nouveaux points de fuite quant à notre époque. De ça aussi, il faut y être extrêmement sensible, je pense. Et donc,
Maxime, vous ne manquez pas de projets, pas de questions non plus. Qu'est-ce qui est sur votre planche de travail présentement?
C'est ce que je vous disais tout de suite. Là, il y a un bouquin sur les jeux vidéo, hein, qui est un peu la suite de l'ouvrage que j'avais publié il y a quelques années maintenant. Désormais, je m'intéresse à d'autres forces qui s'emparent aussi du jeu vidéo. Cette fois-là, c'est les forces que les compagnies de jeux vidéo investissent elles aussi, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de contrôle de l'attention du joueur. Puis ça m'a troublé en fait d'apprendre qu'il y a énormément de compagnies de jeux vidéo qui engagent des spécialistes en sciences cognitives, en neurosciences pour les aider à monter leurs jeux vidéo. Et puis pour ces compagnies-là, parfois, l'objectif de contrôler l'attention du joueur, de créer un rapport presque perpétuel aux jeux vidéo, multiplateformes, des récompenses qu'on peut aller chercher plusieurs fois par jour, etc., qui fait que le jeu vidéo devient vraiment une sorte du centre de notre attention. Et tout ça, c'est extrêmement délibéré. Il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans. Alors, je me suis intéressé, puis je m'intéresse en fait à certains des enjeux éthiques qui sont posés par cette expérience-là, puis la manière dont des technologies contiennent une sorte d'éthique implicite. Donc ça constitue un ouvrage qui est en bonne voie d'être complété. Puis ben j'ai donné l'automne dernier, où il y a déjà un an, un cours qui s'appelait le gothique dans les arts contemporains. Et le gothique, c'est un champ de recherche qui me fascine, donc ce sera mon prochain livre, en tout cas je le souhaite ardemment. Le gothique parce que le gothique, lorsqu'on retourne dans la littérature du 18e siècle, qui est peut-être le lieu de naissance de la littérature gothique, le gothique, c'est d'abord et avant tout une certaine ambiance. Le personnage circule dans un endroit, puis soudainement, il a l'impression de ne plus être seul. Soudainement, il a l'impression que quelqu'un le regarde sans qu'il soit capable de l'identifier. Il est face à une forme de présence. Une présence parfois sombre, parfois dangereuse, etc. On retrouve cette ambiance-là au cœur du cinéma d'horreur, par exemple. C'est pour ça que le cinéma d'horreur est encore marqué par les traits du gothique. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que cette fascination-là pour le gothique est aussi une sorte de désir implicite dans notre époque contemporaine de trouver une altérité, de trouver une présence. Serait-elle noire, serait-elle négative, qui anime notre recherche, qui nous fascine, qui fascine notre rapport à la culture? Et donc, tranquillement, je suis en train de déplier ces enjeux-là du gothique. Je m'intéresse beaucoup, entre autres, au cinéma de Denis Villeneuve, dans lequel le noir joue un rôle absolument central. Donc ça aussi, là, j'ai pas mal de notes. Il va être temps de s'asseoir à ma table de travail puis de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc ça aussi, ça constitue un champ de recherche que j'ai vraiment hâte d'explorer parce que je le garde. Je m'étais dit, je vais finir mon livre sur les jeux vidéo. Puis j'ai comme un bonbon intellectuel, si vous voulez, ça va de travailler sur la question du gothique.
Sur une note un peu plus personnelle, qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres? Qu'est-ce qu'un chercheur fait dans ses temps libres?
C'est une bonne question. Un chercheur dans ses temps libres, souvent cherche. Il n'y a pas une différence fondamentale, je dirais, entre ma vie de recherche et puis ma vie. Tout est objet, un peu comme je le disais à propos de Marie au départ, tout est un objet d'interrogation. Puis une des raisons pour lesquelles les choses fonctionnent comme ça, c'est que je m'intéresse à la culture contemporaine. Alors quand je m'assois pour me divertir, il y a toujours quelque part quelqu'un en moi qui s'interroge sur ce qu'il est en train de regarder, qui pose des questions, qui essaie de comprendre Et donc, j'ai une vie culturelle assez riche, mais dans une certaine mesure, c'est à la fois des passe-temps et potentiellement des objets de recherche aussi qui pourraient le devenir. Donc, puis en même temps, j'ai beaucoup d'étudiants gradués, donc certains travaillent sur des films d'horreur, certains travaillent sur des jeux vidéo, j'essaie d'aller les voir, j'essaie de comprendre les objets sur lesquels ils travaillent. Donc, là encore, business is mixed with pleasure, là, t'sais, les choses se mélangent un peu.
Alors, Maxime Coulomb, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un plaisir de discuter avec vous, de réfléchir avec vous sur les relations que nous entretenons à l'art, aux objets d'art, aux images. J'ai l'impression que maintenant, on ne fera pas seulement se demander qu'est-ce que nous dit l'objet d'art, que nous dit cette image, mais aussi ce que nous disons à cette image, ce que nous disons à cet objet. Merci beaucoup pour cette réflexion stimulante.
Avec plaisir.
Facteur humain est la chaîne officielle de balado-diffusion de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Pour plus de balados, visitez le flsh.ulaval.ca/web/diffusion.